France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous lire ce soir un très beau texte de Friedrich Nietzsche, un texte extraordinaire de Nietzsche, qui est évidemment le plus littéraire des philosophes, sur Carmen de Bizet. Alors, il faut saisir que Nietzsche a été très proche de Wagner. Wagner a vu en Nietzsche une des plus grandes rencontres de sa vie. Il faut savoir que quand Nietzsche écrit un des premiers textes importants, L'origine de la tragédie, je crois, je cite de mémoire, Wagner dit « C'est une des plus grandes rencontres avec ma femme que j'ai eue ». Wagner, qui est un musicien de génie, rencontre ce jeune philologue, puisque Nietzsche était philologue, c'est-à-dire spécialiste de la traduction, de la description des langues anciennes comme le grec, et pas le grec actuel, mais le grec d'Héraclite, le grec de Socrate, etc. Comme il avait une chaire, très tôt, il a eu une chaire d'université, il a rencontré Wagner, ça a été un coup de foudre dément, il est même tombé amoureux de sa femme, et Wagner s'est mis à adorer Nietzsche. Et Nietzsche s'est mis à adorer Wagner, il a écrit des trucs. Et puis après, comme toujours chez Nietzsche, il détruit ce qu'il aime, c'est là où il est un philosophe belliqueux, et il va se mettre à adorer Carmen, ce qui est très troublant, parce que moi je n'y connais rien, mais se mettre à comparer un énorme morceau comme Wagner à Carmen de Bizet, et là, il développe des thèses. Et ce texte, vous savez que Nietzsche a dit une phrase, je l'ai déjà dit, on connaît la phrase de Cioran sur Bach, « Bach rendrait la vie heureuse dans un égout. À quel point Dieu doit tout à Bach. Sans Bach, Dieu serait une créature de seconde zone. » Mais Nietzsche dit cette phrase très étonnante, « Sans musique, la vie serait une erreur. Et je ne parle qu'avec des gens qui ont un sens musical. » Et il a d'ailleurs écrit Nietzsche. Et je vais vous lire donc ce très beau texte de Nietzsche sur Bizet. Et comme Nietzsche adorait le mois de janvier, ou plus exactement, il a écrit des textes sur le mois de janvier dans le Gai Savoir, il a écrit un poème, je vous propose une série de Nietzsche pour ce mois de janvier, en commençant par ses textes très accessibles, et avant de poursuivre sur des textes plus complexes, plus philosophiques. Même si je n'ai en aucun cas la prétention d'aborder Nietzsche sous l'angle philosophique, j'en ai pas les moyens, j'en ai pas les compétences, il faudrait pour cela des personnes beaucoup plus calées que moi, mais je me contente de lire sa dimension littéraire. Alors, il y a un texte très beau dans le Gai Savoir sur le mois de janvier. « Pour la nouvelle année, je vis encore, je pense encore. Il faut encore que je vive, car il faut encore que je pense. Aujourd'hui, je permets à tout le monde d'exprimer son désir et sa pensée la plus chère. Et moi aussi, je vais dire ce qu'aujourd'hui je souhaite de moi-même et quelle est la pensée que cette année j'ai prise à cœur la première, quelle est la pensée qui devra être dorénavant pour moi la raison, la garantie et la douceur de vivre. Je veux apprendre toujours davantage à considérer comme la beauté ce qu'il y a de nécessaire dans les choses. C'est ainsi que je serai de ceux qui rendent belles les choses. Amor fati, ce grand concept de Nietzsche, aimer sa fatalité, ce qui fait que c'est impossible d'être nietzschien. Amor fati, que cela soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas entrer en guerre contre la laideur, je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser les accusateurs. Détourner mon regard, que ce soit là ma seule négation. Et somme toute, pour voir grand, je veux, quelle que soit la circonstance, n'être une fois qu'affirmateur. Vous savez qu'il adorait la formule de Stendhal, que Nietzsche était jaloux même, car un jour Stendhal a écrit « Qu'est-ce que la beauté? Vous savez, tous les philosophes de Platon, tous les mecs travaillent. Qu'est-ce que la beauté, machin, l'équilibre et tout? Et Stendhal, dans une intuition fulgurante, a dit « La beauté est une promesse de bonheur ». Ça veut dire que quand on voit quelqu'un de beau, un homme beau, une femme belle, un paysage beau, on n'analyse pas, mais en réalité, dans notre inconscient, c'est une promesse de bonheur. Le beau n'est pas un truc plastique. Non, le beau est la concrétisation, en gros, que ça vaut le coup de continuer à vivre. Amor fati, vous voyez, aimer sa fatalité. Quand je dis qu'il n'y a rien de plus loin pour un être comme moi d'être Nietzschéen, c'est hallucinant. Être Nietzschéen, c'est préférer le courage à la lâcheté. Être Nietzschéen, c'est affirmer une solitude absolue sans retour. Il errait de pension de famille en pension de famille, sans aucun lecteur. Il est devenu une star énorme, mais après sa mort. Être Nietzschéen, c'est avoir le courage de ne pas espérer dans l'au-delà. Être Nietzschéen, c'est préférer le masque à la vérité. Il y a un très beau texte de Nietzsche sur le masque. Vous savez, l'époque actuelle aime la sincérité, mais Nietzsche dit « Tout esprit profond avance masqué ». Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est que c'est un jeu, la société. On va pas se mettre à être soi-même face à un autre. On a un masque, et il le dit. Et nous aussi, nous allons en société, c'est-à-dire au pays des masques. Et nous y conduisons élégamment toute personne qui s'adresse à autre chose qu'à notre masque. Dans les rapports sociaux, il y a un mythe de la sincérité maintenant, ce qui est débile, parce qu'en réalité, se connaissant pas nous-mêmes, de quoi on peut parler. Donc Nietzsche aime le masque, mais il aime Amor fati. Amor fati, c'est le courage de dire « je suis une fatalité », ce qui est déjà pas facile à dire, « et ma fatalité, je l'aime ». C'est le concept de l'éternel retour, c'est-à-dire si une nuit, comme ça, dans ta chambre, quelqu'un arriverait en te disant, et si par un miracle quelconque, une personne, une fée viendrait et te dirait ce que tu vis là, cette nuit, ce que tu as vécu depuis 50, 60 ans, 70 ans, tout ça, eh ben ça reviendrait inlassablement, ce coucher de soleil reviendrait, cette lune que tu regardes à travers la fenêtre reviendrait, cette soirée avec Pessugia reviendrait, France Inter reviendrait, Adèle Vanrette reviendrait à l'infini. Qu'est-ce que tu répondrais? Ben nous, on répond non, stop, ça va. Hein, tout le monde dirait ça va. Eh bien, à quel point tu devrais aimer la vie pour dire oui, j'aimerais que ça revienne. Ça a l'air de rien, mais il veut nous... C'est pas qu'il veut. Comme il détruit le ressentiment, ce qui est complètement abstrait, hein. Moi étant un être de ressentiment, un être de passion triste, moi je suis quelqu'un de jaloux, d'anxieux, d'aigri, j'ai rien de Nietzschéen. Moi je suis plutôt la phrase de Céline, Madame Bérange, elle visait bas, elle visait juste. Moi j'ai une vision des êtres très freudien. Je sais bien que derrière chaque acte, il y a une économie du moi. Je sais bien que derrière chaque être humain, il y a une ordure qui veut te niquer. C'est évident, il n'y a qu'un combat. Et tous ces gens qu'on écoute ne sont tous que des fientes. Mais je vais vous dire, amor fati, j'aime ma fatalité. Impossible pour moi. Ça veut dire, tu vas mourir dans quelque temps, peut-être très rapidement, mais tu aimes ta fatalité. Il n'y a rien au-dessus, il n'y a pas le paradis, il n'y a pas l'enfer, il n'y a rien. Mais tu l'aimes ta vie, parce que tu aimes. Évidemment, amor fati, c'est pas possible pour moi. Mais c'est génial que Nietzsche ait mis en concept amor fati. Amor fati, c'est dément. C'est dément. Nous ne sommes pas Nietzschéens. Nous sommes pas du tout Nietzschéens. Moi, je suis plutôt un personnage de la biche. Vous savez, qu'est-ce qu'un égoïste, dit la biche? C'est un homme qui ne pense pas à moi. Et il y a un poème là qui est moins évident, qui s'appelle « Saint-Janvier ». Toi qui d'une lance de flamme de mon âme a brisé la glace et qui la chasse maintenant vers la mer écumante, de ses plus hauts espoirs, toujours plus clairs et mieux portants, libre dans une aimante contrainte, ainsi elle célèbre tes miracles, toi le plus beau mois de janvier. Comme c'est un texte sur la musique, on va mettre plus de musique. Il avait cette passion au début pour Wagner. Il en a été son théoricien. Wagner a quand même dit « c'est le plus grand théoricien de ma musique ». Et puis après, il est tombé dans « prends garde à toi ». C'est surréaliste. Le plus grand philosophe qui se met à aimer « prends garde à toi, prends garde à toi ».
Les admirations littéraires de Fabrice Luchini. Maria Callas chante « L'amour est un oiseau rebelle », extrait de Carmen de Georges Bizet. Oh,
jamais, jamais connu de loin. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi.
Fabrice Lucchini lit Le cas Wagner, lettre de Turin de Frédéric Nietzsche.
J'ai entendu hier, le croiriez-vous, pour la 20e fois, le chef-d'œuvre de Bizet. De nouveau, j'ai persévéré jusqu'au bout dans un doux recueillement. De nouveau, je ne me suis point enfui. C'est prodigieux. De nouveau, je ne me suis point enfui. Cette victoire sur mon impatience me surprend, comme une œuvre pareille vous rend parfait. À l'entendre, on devient soi-même un chef-d'œuvre. Et en vérité, chaque fois que j'ai entendu Carmen, il m'a semblé que j'étais plus philosophe, un meilleur philosophe qu'en temps ordinaire. Je devenais si indulgent, si heureux, si indoux, si rassis au sens qu'il se rassoit de nouveau. Être assis pendant 5 heures, première étape vers la sainteté. Puis-je dire que l'orchestration de Bizet est presque la seule que je supporte encore? Cette autre orchestration qui tient la corde aujourd'hui, celle de Wagner, à la fois brutale, factice et naïve, ce qui lui permet de parler en même temps aux trois sens de l'âme moderne, à quel point elle m'est néfaste, cette orchestration wagnérienne? Je la compare à un sirocco. Une sueur contrariante se répand sur moi. C'en est fait de mon humeur de beau temps. Cette musique de Bizet me semble parfaite. Elle approche avec une allure légère, souple, polie. Elle est aimable, elle ne met point en sueur. Tout ce qui est bon est léger. Tout ce qui est divin court sur des pieds délicats. Cette musique est méchante, raffinée, fataliste, elle demeure quand même populaire. Son raffinement est celui d'une race et non pas d'un individu. Elle est riche, elle est précise, elle construit, organise, s'achève. Par là, elle forme un contraste avec le polype dans la musique, avec la mélodie infinie. A-t-on jamais entendu sur la scène des accents plus douloureux, plus tragiques? Et comment sont-ils obtenus? Sans grimace, sans faux monnayage, sans le mensonge du grand style. Enfin, cette musique suppose l'auditeur intelligent, même s'il est musicien, et en cela aussi elle est l'antithèse de Wagner, qui, quel qu'il soit quant au reste, était en tous les cas le génie le plus mal appris du monde. Wagner nous prend pour des... Oui, il dit une chose jusqu'à ce que l'on désespère, jusqu'à ce qu'on y croit. Et encore une fois, avec Bizet, je me sens devenir meilleur. Lorsque ce Bizet s'adresse à moi, et aussi meilleur musicien, meilleur auditeur, est-il possible de mieux écouter? J'ensevelis mes oreilles sous cette musique, j'en perçois les origines. Il me semble que j'assiste à sa naissance. Je tremble devant les dangers qui accompagnent n'importe quelle hardiesse. Je suis ravi des heureuses trouvailles dont Bizet est innocent. Et chose curieuse, au fond, je n'y pense pas. Ou bien j'ignore à quel point j'y pense, parce que des pensées toutes différentes roulent à ce moment-là dans ma tête. A-t-on remarqué que la musique rend l'esprit libre, qu'elle donne des ailes à la pensée, que l'on devient d'autant plus philosophe que l'on n'est plus musicien? le ciel gris de l'abstraction semble sillonné par la foudre. La lumière devient assez intense pour saisir les filigranes des choses. Les grands problèmes sont assez proches pour être saisis. Nous embrassons le monde comme si nous étions en haut d'une montagne. Je viens justement de définir le pathos philosophique. Et sans que je m'en aperçoive, des réponses me viennent à l'esprit. Une petite grêle de glace, de sagesse, de problèmes résolus. Où suis-je ? Bizet me rend fécond. Tout ce qui a de la valeur me rend fécond. Je n'ai pas d'autre gratitude, je n'ai pas d'autre preuve de la valeur d'une chose. C'est ce qui me rend fécond. L'œuvre du Bizet, elle aussi, est rédemptrice. Wagner n'est pas le seul rédempteur. Avec cette œuvre, on prend congé du nord humide, de toutes les brumes de l'idéal wagnérien. Déjà l'action nous en débarrasse, elle tient encore de mérimer la logique dans la passion, la ligne droite, la dure nécessité, elle possède avant tout ce qui est propre des pays chauds, la sécheresse de l'air. Nous voici à tous les égards sous un autre climat, une autre sensualité, une autre sensibilité, une autre sérénité s'exprime ici. Cette musique est gaie. Mais ça n'est point d'une gaieté française ou allemande. Sa gaieté est africaine. La fatalité plane au-dessus d'elle. Son bonheur est court, soudain, sans merci. J'envie Bizet parce qu'il a eu le courage de cette sensibilité. Une sensibilité qui, jusqu'à présent, n'avait pas trouvé d'expression dans la musique de l'Europe civilisée. Enfin, je veux dire, cette sensibilité méridionale, cuivrée, ardente. Quel bien nous font les après-midi dorés de son bonheur. Notre regard s'étend au loin. Avons-nous jamais vu la mer plus unie et que la danse mauresque nous semble apaisante? Comme sa mélancolie lascive parvient à satisfaire nos désirs toujours insatisfaits. C'est enfin l'amour, l'amour remis à sa place dans la nature, non pas l'amour de la jeune fille idéale, pas de trace de sentimentalité, au contraire, l'amour dans ce qu'il a d'implacable, de fatal, de cynique, de candide, de cruel, et c'est en cela qu'il participe de la nature. L'amour dont la guerre est le moyen, dont la haine mortelle des sexes est la base, je ne connais aucun cas où l'esprit tragique, qui est l'essence de l'amour, s'exprime avec une semblable âpreté, revêt une forme aussi terrible que dans ce cri de Don José qui termine l'œuvre « Oui, c'est moi qui l'ai tué ». Carmen, ma Carmen adorée, évidemment, hein, Nietzsche n'est pas dans une époque, évidemment, de MeToo machin. Hein. Il voit dans l'amour la guerre des sexes, Nietzsche. Alors, on ne va pas se lancer dans des polémiques. Non pas l'amour de la jeune fille idéale, pas trace de sentimentalité. Au contraire, l'amour dans ce qu'il a d'implacable, de fatal, de cynique, de candide, de cruel, et c'est en cela qu'il participe de la nature. L'amour dont la guerre est le moyen, dont la haine mortelle des sexes est la base. Je ne connais aucun cas où l'esprit tragique qui est l'essence de l'amour s'exprime avec une semblable âpreté, revêt une forme aussi terrible que dans ce cri de Don José qui termine l'œuvre. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Carmen. Ma Carmen adorée. Une telle conception de l'amour, la seule qui soit digne du philosophe, est rare. Elle distingue une œuvre d'art entre mille, car d'une façon générale, les artistes ont le même sort que tout le monde, souvent même à un plus haut degré. Ils méconnaissent l'amour. Wagner lui-même l'a méconnu. Ils croient être généreux en amour, puisqu'ils veulent l'avantage d'un autre être, souvent même aux dépens de leur propre intérêt. Mais en récompense, ils veulent posséder cet autre être. Dieu lui-même ne fait pas exception ici. Il est loin de penser « Si je t'aime, est-ce que ça te regarde ?» Il devient terrible quand on ne le paye pas de retour. L'amour, Avec cette parole, on gagne sa cause auprès de Dieu et des hommes. L'amour est de tous les sentiments le plus égoïste et par conséquent, lorsqu'il est blessé, le moins généreux. La Nietzsche cite Benjamin Constant. Vous voyez déjà combien cette musique me rend meilleur ? Et là, c'est le génie. Il faut méditerraniser la musique. J'ai des raisons pour énoncer cette formule. Le retour à la nature, à la santé, à la gaieté, à la jeunesse, à la vertu. Et cependant, j'étais l'un des wagnériens les plus corrompus. J'étais capable de prendre Wagner au sérieux. Ah, le vieux magicien, nous en a-t-il assez fait à croire ? La première chose que nous offre son art de Wagner, c'est un verre grossissant. On regarde au travers, on ne se fie plus à ses yeux. Tout devient grand. Wagner lui-même devient un grand homme. Quel prudent serpent à sonnette. Toute sa vie, il a agité la sonnette avec les mots de résignation, de loyauté, de pureté. Il s'est retiré du monde corrompu avec une louange à la chasteté et nous l'avons cru. Mais vous ne m'entendez pas. Vous préférez encore le problème de Wagner à celui de Bizet. Moi non plus, je ne l'estime pas au-dessous de la valeur. Il a son charme. Le problème de la rédemption est même un problème très vénérable. Rien n'a fait faire à Wagner de réflexion plus profonde que la rédemption. L'opéra de Wagner, c'est l'opéra de la rédemption. Il y a toujours chez lui quelqu'un qui veut être sauvé. Tantôt un homme, tantôt une femme. C'est là son problème. Et avec quelle richesse il varie ce leitmotiv. Curieuse échappée, rare et profonde. Qui donc nous l'apprendrait si ce n'est Wagner, que l'innocence sauve avec prédilection des pêcheurs intéressants. Ça, c'est le cas de Tannhauser, ou bien que le juif errant lui-même trouve son salut, devient casanier lorsqu'il se marie, c'est le cas du vaisseau fantôme, ou bien qu'une vieille femme corrompue préfère être sauvée par de chastes jeunes gens, c'est le cas de Kundry dans Parsifal, ou bien encore que de jeunes hystériques aiment être sauvées par leur médecin, c'est le cas de Lohengrin, ou bien que de belles jeunes filles sont sauvées plus volontiers par un chevalier qui est wagnérien, c'est le cas des maîtres chanteurs, ou encore que des femmes mariées, elles aussi, ont recours au chevalier, c'est le cas d'Iseult, ou enfin que le vieux dieu, après s'être moralement compromis de toutes les façons, finit par être sauvé par un libre penseur, par un immoraliste, c'est le cas de l'anneau, admirer en particulier cette dernière profondeur. La comprenez-vous ? Moi, je m'en garde bien. Qu'il y ait lieu de tirer encore d'autres enseignements des ouvrages cités, je serais plutôt porté à le démontrer que d'y contredire. Qu'un ballet wagnérien puisse vous réduire au désespoir et à la vertu, c'est encore le cas de Tannhauser. Que l'on soit menacé des suites les plus fâcheuses lorsqu'on ne se met pas au lit à l'heure, c'est encore le cas de Lohengrin, qu'on n'a jamais besoin de savoir trop exactement avec qui l'on va se marier. C'est pour la troisième fois le cas de Lohengrin. Tristan et Iseult glorifient le parfait époux qui, dans un cas déterminé, n'a qu'une seule question à la bouche. « Mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela plus tôt ?»« Ben, il n'y a rien de plus simple. » Réponse « Ça, je ne peux pas le dire. Et ce que tu demandes, tu devrais toujours l'ignorer. »
Les admirations littéraires de Fabrice Uchini sur France Inter.
Un extrait de Tannhauser de Richard Wagner par Anna Netrebko.
Yeah.
Les admirations littéraires de Fabrice Lucchini.
Voilà, je remercie pour cette émission Xavier Pistuggia à la réalisation, Laurent Bedouin à la technique, Thierry Dupin pour la musique, Emmanuel Garecino, sans qui rien n'aurait pu être fait. Bonne soirée et à dimanche prochain.